Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, 2022 commence mal pour l'économie française. Croissance nulle, la consommation recule, les prix augmentent moins vite, mais toujours. C'est le dernier tableau dressé par l'INSEE. Détail avec Fabien Cazot et l'impact de la hausse dans les supermarchés. Les marques premier prix et distributeurs sont les plus touchés. Le PS va-t-il se mettre d'accord avec les insoumis pour les législatives? Les positions sur le fond se rapprochent. 6e République, SMIC à 1 400 €, un pas vers la retraite à 60 ans. L'Europe reste un sujet de divergence, mais il faut réviser les traités, écrivent les socialistes. Forte tension en interne. Les négociations avancent bien aussi entre insoumis et écologistes.
J'ai bon espoir que ces négociations aboutissent dans les heures qui viennent. Et pourquoi pas un 1er mai commun ?
Julien Bayou pour les écologistes, nous l'entendrons plus longuement. Dans l'actualité encore, au sein de l'enfer de l'usine Azovstal à Marioupol, témoignage édifiant, l'épidémie de Covid en nette décrue en France et un inédit de Georges Perec en librairie. Vos rendez-vous dans le 13-14, notre invité à 13h30, Moussa Camara, à Cergy cette semaine. Emmanuel Macron est venu lui rendre visite, il se bat pour développer les entreprises en banlieue et en zone rurale. Comment développer l'esprit d'entreprise dans ces parcelles de France? Quels atouts, quels handicaps? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à Moussa Camara. Garçon inspirant, vous verrez. Emmanuel Macron dans les Hautes-Pyrénées aujourd'hui. Récite cette visite dans quelques minutes. Le vif de l'histoire avec Jean Lebrun avant 14h. Ce sera le 1er mai aujourd'hui. Et puis dans C'est une chanson, c'est la directrice de France Inter pour quelques semaines encore, Laurence Bloch, qui parle de la javanaise de Gainsbourg à Aline Afanou Coé. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le mot n'est pas très heureux, la réalité qu'il décrit non plus. Stagflation, combinaison d'une très faible croissance économique, stagnation, et d'une hausse des prix. Inflation. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Chef du service économie de France Inter. Eh bien en France, la stagflation, on y est selon l'INSEE en ce début d'année. Croissance nulle et hausse des prix proche sur un an des 5%.
Oui, c'est en partie une conséquence de la guerre en Ukraine déclenchée fin février qui commence donc à se voir dans les comptes du premier trimestre. Mais pas seulement, car en fait on assiste à l'accélération d'une tendance qui était déjà présente ces derniers mois. Baisse de la croissance, on était à 3% il y a 6 mois, 0 aujourd'hui. Et montée de l'inflation qui avait déjà, souvenez-vous, entraîné deux hausses automatiques du SMIC depuis l'année dernière et qui va d'ailleurs en déclencher une troisième après-demain, 1er mai. Le lien entre croissance nulle et inflation galopante, il semble clair. La valse des prix incite les consommateurs à une grande prudence. De l'alimentaire au textile en passant par l'hôtellerie-restauration, aucun secteur n'échappe à la frilosité ambiante. Le niveau global de consommation dans le pays est en forte baisse de 1,3% au premier trimestre 2022.
Bonjour Jacques Cressel.
Bonjour.
Délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution, avec vous, nous allons voir comment cette hausse se traduit dans les magasins. Je voudrais d'abord vous faire entendre ces propos de la rédactrice en chef adjointe du magazine 60 millions de consommateurs qui sort un hors-série sur la hausse des prix des produits du quotidien. Et voici ce que dit Sophie Kouane à nos confrères de France Info.
Nous pouvons voir une augmentation sur 5 catégories en particulier. Les pâtes qui ont pris en moyenne 12% sur un an, la viande surgelée, l'huile végétale, colza, tournesol, le café et les légumes en conserve. Mais dans ces catégories, ce sont les premiers prix et les marques de distributeurs qui sont les plus impactées. Par exemple, sur certains premiers prix de pâtes, on observe une augmentation de 70 à 75% sur les coquillettes premier prix, par exemple. On attend l'augmentation des produits de grandes marques, car la négociation a été plus longue. Et on attend également l'impact de l'arrêt des exportations d'huile de palme sur lesquelles les fabricants comptaient pour remplacer l'huile de tournesol.
Jacques Cressel, Fédération du commerce et de la distribution, plus 70 à 75% sur les pâtes premier prix. On en est là en termes d'augmentation des prix?
Il y a effectivement une augmentation forte. C'est normal qu'il y ait une augmentation plus forte sur les marques et les produits premier prix dans la mesure où la part de la matière première est plus importante. Or aujourd'hui, c'est l'augmentation de la matière première, le blé, l'huile, qui fait l'augmentation globale des prix. L'augmentation générale est naturellement beaucoup plus faible que celle-ci. Les chiffres de l'INSEE ce matin montrent qu'en avril, l'augmentation du prix des produits alimentaires, c'est 3,8%. ce qui est important, ce qui est en progression constante. Et on sait bien que, avec notamment les renégociations qui sont en cours aujourd'hui, oui, à la demande du gouvernement avec les industriels, il y aura des augmentations supplémentaires qui vont arriver dans les semaines qui viennent.
Alors, si la croissance est nulle au premier trimestre, c'est notamment parce que la consommation des ménages a baissé, nous dit l'INSEE. Vous le constatez, vous, de votre fenêtre ?
Oui, on commence à le voir. On le voit dans les chiffres, naturellement, de l'INSEE. Cette hausse globale des prix se traduit par une diminution du pouvoir d'achat pour les ménages. Et les ménages, ils font deux choses dans ces cas-là. Un, ils achètent des produits plutôt premier prix et des marques de distributeurs, parce que ça revient moins cher pour une qualité égale. Et puis, par ailleurs, ils consomment moins. Et on voit bien que là, il commence à y avoir des baisses sensibles. Hein. La perte du PIB, enfin la non-progression du PIB, ouais, au premier trimestre s'explique très largement par ce recul de la consommation, y compris de la consommation alimentaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller de près et qu'on peut craindre dans les semaines qui viennent.
Alors on a parlé de l'alimentation. Fabien Cazot nous disait hausse au rayon textile aussi. Elle est de combien ?
Je n'ai pas le détail de ces des chiffres par rayon, mais on voit bien que globalement, les augmentations de l'ensemble des produits, hein, sur les produits manufacturés, on a aujourd'hui des augmentations de l'ordre de 3% en moyenne, d'après l'INSEE, avec des chiffres très différents d'un rayon à l'autre.
Alors vous le disiez, Jacques Cressel, les négociations commerciales avec les industriels de l'agroalimentaire ont rouvert mi-mars, et ils vous accusent, vous les distributeurs au sens large, de jouer la montre. Ils nuisent gravement à la filière et mettent en danger les entreprises. Les termes sont forts. Que répondez-vous ?
Je réponds d'abord que les deux personnes qui ont signé ce communiqué n'étaient même pas à la réunion hier avec le gouvernement, ce qui est quand même paradoxal, et que ça ne correspond absolument pas au ton de la réunion. On a l'impression d'un communiqué qui a été rédigé un peu à l'avance pour essayer de mettre de la pression. La réalité est tout autre. Il y a des renégociations qui sont en cours avec l'application en plus de mécanismes prévus par la loi dite Egalim 2 pour, oui, automatiquement augmenter un certain nombre de prix. Il y a beaucoup d'accords qui ont déjà été signés. Et d'ailleurs, si on a aujourd'hui des augmentations sur un certain nombre de produits, c'est bien parce qu'il y a ces renégociations. Donc je ne comprends pas cette attitude un peu curieuse. C'est peut-être pour cacher le fait que dans un certain nombre de cas, la transparence que nous appelons de nos voeux pour justifier ces augmentations, elle n'est pas toujours là. Et donc dans ces cas-là, souvent, on attaque pour essayer de contrebalancer les critiques qu'on risque d'avoir. Je pense que tout ça va avancer bien. Les industriels eux-mêmes disent que dans une situation aussi compliquée que celle-là, très souvent, ils n'ont même pas encore envoyé leurs propres nouvelles augmentations. Donc tout ceci va se mettre en place et a d'ores et déjà abouti à un certain nombre d'accords sur beaucoup de produits.
Merci Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. Fabien Cazot, on vous retrouve. Sophie Kouane, de 60 millions de consommateurs que l'on entendait tout à l'heure, n'attend pas de pause sur la hausse des prix avant la fin de l'année. Parmi ceux qui suivent de près cette question, ça fait débat. Hier, le vice-président de la Banque Centrale Européenne estimait au contraire qu'on était proche du pic de l'inflation, qu'elle allait baisser d'ici à la fin de l'année. Et Fabien, selon où on se situe, les réponses de politique économique sont évidemment différentes.
Oui, on le disait tout à l'heure, l'inflation pénalise la croissance. Donc vous avez ceux qui disent la priorité, c'est de lutter contre l'inflation. Comment ? En augmentant les taux d'intérêt, ça donne plus de valeur à l'argent et donc ça calme la hausse des prix. À l'inverse, vous avez ceux qui préfèrent temporiser parce qu'augmenter les taux, ça veut aussi dire dissuader d'emprunter pour investir ou consommer. Le risque, c'est alors de faire de l'activité économique une victime collatérale de la lutte contre l'inflation. Pour l'instant, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, s'y est toujours refusée à augmenter les taux. Augmenter les taux d'intérêt, ça ne changerait rien, argumente-t-elle, à la hausse des prix de l'énergie responsable pour moitié de la flambée d'inflation au niveau européen.
Et la stagflation touche ou menace aussi nos voisins européens dans l'ensemble des pays dont l'euro est la monnaie. La croissance est de 0,2% au premier trimestre seulement. L'inflation sur un an est de 7,5%. Un chiffre marquant en Italie au premier trimestre, le PIB recule carrément de 0,2%. C'est dans ce contexte économique qu'Emmanuel Macron va entamer son second mandat. Parmi les mesures promises pour le pouvoir d'achat, un chèque alimentaire, un nouveau geste sur le carburant et pour les revenus la prime en entreprise, les retraites indexées sur l'inflation, la hausse du point d'indice des fonctionnaires et des petites retraites. On verra à quel rythme et si tout cela est mis en place. Autre priorité, plus politique celle-ci pour le président, gommer son image d'un chef d'État éloigné de la population. Alors Emmanuel Macron se déplace à nouveau. Il y a deux jours, Cergy, banlieue parisienne, quartier populaire. Aujourd'hui, Simon Le Baron, vous êtes en direct avec nous. Les Hautes-Pyrénées, Barbazan de Batte, un tour au marché pour Emmanuel Macron.
Oui, dans une agitation, disons moins chaotique qu'à Cergy.
On est fiers de vous.
Continuez comme ça, monsieur le président.
Bonjour, monsieur le maire.
Voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup moins de monde ici sous la petite halle de ce village d'un peu plus de 3000 habitants. Mais entre les salades, le porc noir de Bigorre et la tome de brebis, la même illustration d'une France divisée, de la politique sanitaire. Avec cet homme qui l'interpelle sur les vaccins. Et que l'on n'entendra pas, de la politique sanitaire donc, jusqu'aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat et les retraites.
À 1050 euros, on n'a droit à
rien. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que moi j'ai remetté à 1100 euros. Mais qui paye les retraites ? Non mais donc, c'est travailler plus longtemps. Non mais je veux dire, tout se tient, parce que sinon on rentre dans une société...
Voilà, des quartiers à ce qu'il appelle la ruralité, ce sont ces deux France dites oubliées que le président veut tenter de rassurer, et surtout il veut montrer, vous l'avez dit Bruno, qu'il écoute, qu'il va au contact pendant que les oppositions affichent au grand jour leur cuisine politique à 6 semaines des législatives, comme si Emmanuel Macron n'avait en fait jamais cessé d'être en campagne.
Simon Le Baron en direct de Barbazan de Batte dans les Hautes-Pyrénées, en direct, qui se pose quelques petites prises de risque techniques. Vous étiez avec Georges Thau cet après-midi. Emmanuel Macron sera à Montgaillard pour saluer la mémoire de sa grand-mère qui repose dans ce village. Et le président aura-t-il une majorité à l'Assemblée pour appliquer ses réformes lors du second quinquennat ? Cela se jouera les 12 et 19 juin prochain aux élections législatives, et cela dépend des alliances qui seront nouées entre ses adversaires, notamment à gauche, et les discussions à gauche avancent. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Entre le PS et les Insoumis, les différences sur le fond n'étaient pas minces au départ, mais les positions se rapprochent sérieusement au prix de tensions chez les socialistes.
Oui, au point que les solférinologues, enfin ce qu'il en reste, puisque solférino n'existe plus, ont sursauté ce matin au réveil, communiqué relayé par l'AFP à 7h58. La direction du PS souscrit aux propositions de LFI. Alors vite, on se plonge dans le courriel, long, 4 pages. Et effectivement, le PS acte ses convergences. Le SMIC à 1400 euros, le blocage des prix de produits de première nécessité, mais aussi et surtout la retraite à 60 ans. Et l'inventaire du quinquennat Hollande qui continue 5 ans après, suppression, je cite, des dispositions régressives introduites dans le Code du Travail par la loi El Khomri et les ordonnances Macron. J'ajoute la 6ème République, chère aux Insoumis, le PS appelle ça rupture avec la monarchie présidentielle. La première réunion mercredi au siège de LFI s'était déjà très bien passée, mais alors là, l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, l'une des négociatrices, n'en revient pas.
Le Parti Socialiste qu'on a connu il y a 5 ans sous l'ère Hollande, reconnaît qu'il a tourné le dos aux Français, tourné le dos au peuple de gauche qui d'ailleurs lui en a voulu, puisque électoralement parlant, le Parti Socialiste n'a cessé de décliner pour terminer à moins de 2%. Peut-être c'est le retour aussi au sens même du socialisme, au sens du partage des richesses. C'est un préalable qui va nous permettre de continuer les discussions dans de bonnes dispositions.
Alors Yael, on entend bien ce que dit Manon Aubry. Ce n'est pas un accord en bonne et due forme encore.
Ouh là 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 là, non, extrême prudence des dirigeants PS qui ne réagissent pas publiquement. Et pour cause, me confiait le premier secrétaire Olivier Faure, nous sommes encore loin d'un accord. L'Europe, l'Ukraine, la laïcité sont des points à éclaircir. Et surtout, le nerf de la guerre, le partage des circonscriptions n'a pas du tout été abordé. Les négociations sont même suspendues en ce moment. Rafale de tweets hostiles depuis ce matin. Le PS des villes et des régions en toupie. Critique de Michael Delafosse à Montpellier, de Carole Delga à Toulouse, qui cite Mendès France, la morale en politique interdit que stratégie et conviction divergent. Elle a même investi sans attendre dans le Tarn ses candidats à elle, socialistes. Chez les Insoumis, on croit toujours à un accord global possible, à 4, hein, LFI, PS, PC, Vert, espéré pour dimanche, 1er mai, ce serait symbolique, mais tout est fragile. Les négociateurs se donnent jusqu'au 7 mai. Rendez-vous compte, me disait un proche de Jean-Luc Mélenchon, c'est comme si on refaisait le programme commun en un week-end.
Si l'on en croit Alexis Corbière chez les Insoumis, si un accord est trouvé, ça donnerait donc des candidats sous une bannière unique aux législatives, mais ensuite, chaque parti aurait un groupe parlementaire. Les militants insoumis font déjà circuler les affiches de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Derniers échos des négociés des communistes, il faut un rassemblement qui respecte l'ensemble des force, estime le secrétaire national Fabien Roussel. Et entre LFI et les écologistes, où en est-on? Réponse de Julien Bayou pour Les Verts sur France 2 ce matin.
J'ai bon espoir que ces négociations aboutissent dans les heures qui viennent. Et pourquoi pas un 1er mai commun en soutien aux syndicats contre cette réforme à 65 ans. Pourquoi pas une bannière commune, l'Union Populaire Écologiste. Imaginez le signal d'une bannière commune pour lancer les législatives, le troisième tour de la présidentielle, et envoyer une majorité des bataillons de députés de gauche écologistes à l'Assemblée. Et aujourd'hui, j'estime que l'accord est en vue. On ne peut pas perdre 3 ans, 5 ans de plus sur le climat. Nous pouvons être d'accord sur l'essentiel et même bien au-delà. Nous pouvons aussi choisir de relancer l'Europe, réorienter l'Europe pour qu'elle respecte le climat et la justice sociale. C'est un enjeu majeur pour une France qui aurait des alliés écologistes à travers l'Europe et notamment en Allemagne.
À l'extrême droite, il n'y aura pas d'accord, en tout cas pas avant le premier tour entre le RN et Reconquête d'Éric Zemmour. Le Rassemblement national ambitionne d'avoir des candidats dans les 577 circonscriptions.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Une nouvelle opération d'évacuation est envisagée aujourd'hui depuis Mariupol en Ukraine. C'est la présidence ukrainienne qui le dit. Ce serait sous le patronage de l'ONU. L'objectif serait de faire sortir les civils terrés dans l'usine Azovstal, aciérie, qui est l'objet de combats et d'un siège. Et sur place, Thibault Lefèvre, la situation est dramatique.
Oui, alors un point d'abord, Bruno, sur les sources d'information pour parler de la situation à Mariupol. Il y a les médias russes, bien sûr, quelques journalistes occidentaux sur place, accrédités par Moscou et accompagnés sur le terrain par des séparatistes pro-russes du Donbass. Et puis, il y a la communication du groupe paramilitaire controversé Azov et de ses centaines de soldats ukrainiens qui résistent dans des conditions dramatiques. Sur cette vidéo, par exemple, dont vous entendez le son envoyé il y a près de 24 heures, des blessés et des morts sont déterrés après l'écroulement d'un sous-sol à la suite d'une série de bombardements. Sviatoslav Palamar est le commandant adjoint du bataillon.
La nuit a été très tendue. Les frappes ont touché les bunkers où les civils se sont réfugiés. Les gens ont été ensevelis. On a creusé pour les sortir de là. On a entendu une cinquantaine de frappes et ensuite, nous avons arrêté de compter. Mais le pire, c'est qu'ils ont visé volontairement notre hôpital militaire avec des blessés. Le bloc chirurgical est sous les décombres. Ils ne respectent pas le droit humanitaire et les conventions de Genève.
Selon le bataillon Azov, il y a en ce moment plus de 500 blessés à Azovstal, dont des enfants entre 4 mois et 16 ans.
Thibault Lefèvre, et le témoignage a été recueilli grâce à Anya Onianik qui travaille avec vous. Hier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a parlé de l'apocalypse de Mariupol. Il était à Kiev et alors que cet homme, symbole des relations internationales, était donc dans la ville, eh bien la Russie a bombardé la capitale ukrainienne. Moscou l'a confirmé ce matin, assurant que des armes de haute précision avaient été utilisées pour viser les ateliers d'une entreprise spatiale. Cette frappe russe sur Kiev, alors que le secrétaire général de l'ONU était présent, peut être vue comme un symbole des relations très compliqué, Jean-Sébastien Soldaini, entre ONU et Russie depuis le début de la guerre.
Eh bien, c'est comme si l'ONU, organe multilatéral par excellence, cherchait à se concentrer sur une relation bilatérale. Un dialogue direct avec Moscou, mais la Russie n'entend rien en même temps que ses soldats tapent comme des sourds. Les Nations Unies ont tenté des résolutions par le biais de l'Assemblée Générale, deux votes, à chaque fois 140 pays qui demandent la fin de cette agression. Pas de réponse. La Cour pénale internationale, émanation de l'ONU, ouvre une enquête pour crimes de guerre et demande la collaboration de la Russie. Silence. Le 7 avril, le pays est suspendu du Conseil des droits de l'homme. Toujours rien, en dehors des réunions du Conseil de sécurité, réunion stérile puisque l'instance est paralysée par le droit de veto de Moscou, aucune interaction. Il a fallu attendre 2 mois pour qu'Antonio Guterres fasse un premier pas, aille en personne rencontrer Vladimir Poutine au Kremlin. Il y aura peut-être une avancée humanitaire à Mariupol, attendons de voir, mais sur le plan diplomatique, le secrétaire général de l'ONU avoue l'échec de son organisation, échec pour empêcher et pour mettre fin à cette guerre. Il va même plus loin et semble dire que tout est à repenser.
Nous sommes au rez-de-chaussée du monde que nous voulons construire, un monde de respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et du pouvoir du multilatéralisme. Un monde qui protège les civils, qui fait évoluer les droits humains, un monde dont les leaders s'abandonnent aux valeurs qu'ils ont promis d'améliorer.
Vladimir Poutine tourne ouvertement le dos au système des Nations Unies. La frappe à Kiev pendant la visite d'Antonio Guterres en est l'expression. C'est peut-être là ce qu'il cherche, ouvrir la voie aux autres régimes autoritaires pour déconstruire
rétablir l'ordre mondial ou du moins imposer son propre désordre.
Et la frappe sur Kiev a provoqué la mort d'au moins une personne, une productrice de Radio Liberty, radio financée par les États-Unis. Nous allons en Chine à présent. L'épidémie de Covid est bel et bien en nette décrue en France, mais en Chine, les autorités ne dévient pas de leur ligne politique zéro Covid. Shanghai toujours confiné, Pékin redoute de l'être et à Canton, des mesures de restriction sont prises, notamment à l'aéroport. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Inter en Chine en direct. Mesures de restriction à Canton, Sébastien, après la détection de seulement 3 cas de Covid.
Oui, effectivement, 3 cas seulement confirmés, 3 personnes travaillant dans l'aéroport de Canton et aussitôt l'activité a été arrêtée sur le site avec l'annulation en quelques minutes de 1120 vols, le temps de désinfecter tous les bâtiments. Énorme pagaille donc dans le premier aéroport de Chine, mais peu importe, la politique zéro Covid a comme toujours été appliquée de manière stricte et automatique, avec aussi un dépistage massif de la population qui a été lancée. Sur les 19 millions d'habitants de Canton, 6 millions doivent se faire tester au moins 3 fois au cours des 7 prochains jours. Pour le moment, il n'y a pas eu de mesure de confinement. L'activité économique est maintenue dans cette ville qui est un centre commercial et manufacturier majeur. Mais la suspension de centaines de vols à Canton est un coup dur supplémentaire pour les compagnies aériennes qui cette année ne vont pas bénéficier des vacances nationales du 1er mai, période traditionnelle de déplacement pour les Chinois. À cause des confinements, le nombre de voyages va baisser de plus de 60% selon les prévisions du ministère chinois des Transports.
Voilà pour la Chine avec Sébastien Berriot en direct. Ici, Santé publique France vient de publier son bulletin hebdomadaire et l'épidémie, Hélène Chevalier, est en nette décrue.
Oui, pour la première fois, l'incidence est repassée en dessous de 1898 pour être précise. Certes, le niveau de circulation du virus est encore élevé, mais après plusieurs semaines de stagnation, la baisse semble cette fois-ci bien amorcée. On est en moyenne autour de 65 000 contaminations quotidiennes, contre presque 2 fois plus il y a 15 jours. Toutes les catégories d'âge sont maintenant concernées par cette décrue. Une décrue qui fait tout de même un peu de résistance en Corse et dans les territoires d'outre-mer, plus particulièrement à La Réunion où l'incidence frôle encore les 2000. La baisse se confirme également à l'hôpital. Le pic des admissions a été atteint à la mi-avril. Enfin, sans grande surprise, le respect des gestes barrières est en forte chute en avril. Seuls 42% des sondés disent encore porter le masque en public. Ils étaient 71% en février. 1 sur 5 déclare même ne plus le porter dans les transports en commun alors qu'il y est encore obligatoire. Et de ce côté-là, le ministère de la Santé nous indique qu'il n'est pour le moment pas envisagé de lever cette restriction.
Et à propos de santé, une étude internationale nous en apprend plus sur l'impact des séjours en orbite. Et un détail attire l'attention, la vue d'une partie des spationautes baisse. Ce n'est pas considéré comme un sujet de préoccupation majeure à ce stade, mais ça pourrait le devenir dans le cadre de missions à beaucoup plus longue durée. Heureusement, il y a des pistes pour remédier à cela. Écoutez le professeur Philippe Arbeil, spécialiste de médecine spatiale. Il parle d'abord de ces troubles de la vue.
Ça, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg, parce que derrière l'œil, vous avez justement le cerveau, cet organe noble et indispensable. Et on se dit que s'il y a un œdème au fond de l'œil, une accumulation de liquide dans les tissus, eh bien on a la même chose au niveau du cerveau. Pour l'instant, au bout de 6 mois, c'est réversible, ça revient à la normale. Mais on ne sait pas si un voyage sur Mars ne va pas générer, par l'exposition longue à ce genre d'anomalie, ben des lésions au niveau du tissu cérébral qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Les gens qui gèrent les individus dans l'espace ont pensé à des contre-mesures pour éviter ça. La NASA travaille sur un costume qui pourrait permettre à l'astronaute de se déplacer dans la station, de vaquer à ses occupations, mais sans vous bloquer, parce qu'actuellement, le pantalon en question, il ressemble à un pantalon de Tintin, il est orange, c'est des grosses pattes avec des ressorts, sauf que vous êtes fixé à une paroi et vous pouvez plus bouger, parce que vous avez des instruments pour faire la dépression, etc. Dans le vol sur Mars, qui interviendra dans, je sais pas, 7-8 ans, il faudrait être prêt pour de bon, là. Il ne suffira plus d'être au prototype.
À propos recueilli par Hélène Chevalier, qui était dans ce studio il y a quelques minutes. Voilà un acquittement en appel qui suscite la polémique, celui des deux policiers
Accusé de viol par une touriste canadienne, c'était dans les locaux du 36 quai des Orfèvres il y a 8 ans. Après avoir été condamnés en première instance, les deux agents ont été innocentés par un jury populaire vendredi dernier. Décision définitive. Après cela, une tribune publiée par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, signée par des militantes féministes, pose une question très directe. La France est-elle une terre d'impunité du viol? Mais de l'autre côté, Mathilde Vinceneux, les avocats des policiers dénoncent une instrumentalisation de cette affaire.
Oui, cette tribune signée par 140 personnalités dénonce un procès qui fut celui de la victime avec des stéréotypes sexistes. Caroline Mécari, avocate et signataire.
On a retenu des éléments de sa vie privée qui n'ont rien à voir avec les faits. On a retenu le fait qu'elle pouvait avoir une version approximative, alors qu'on n'a pas retenu le mensonge des accusés qui n'ont été confondus que parce qu'il y a eu une preuve ADN. On a retenu contre la victime le fait qu'elle était alcoolisée. Donc ces éléments auraient dû faire pencher la balance de l'autre côté.
De son côté, la défense s'étonne de la réaction de ces personnalités qui n'ont pas assisté au procès. La cour a motivé cet acquittement par le fait que des doutes persistaient, des doutes qui doivent profiter aux accusés. Pascal-Pierre Garbarini, avocat de l'un des policiers.
On ose dire que l'on a mis en cause la liberté sexuelle de cette dame et également la manière dont elle s'habillait. Mais c'est scandaleux. Jamais a été mise en cause la liberté de cette femme. Jamais. Madame Spanton a donné plusieurs versions changeantes. On ne peut quand même pas se permettre de condamner quelqu'un à partir du moment où on n'est pas sûr.
L'avocate de la plaignante tente de saisir la cour de cassation, mais hors délai, l'acquittement ne sera donc pas annulé. Seuls des points de droit pourraient être soulevés.
En Belgique, le plasticien et chorégraphe Yann Fabre est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il était accusé de harcèlement et d'un attentat à la pudeur par des danseuses de sa compagnie. Si vous avez l'habitude de prendre le bus en région parisienne, vous avez découvert au fil des années le plaisir des bus électriques. Eh bien, près de 150 d'entre eux vont être retirés provisoirement de la circulation. Maxime Debs, deux d'entre eux ont pris feu en moins d'un mois.
Ouais, dans un communiqué assez succinct, la RATP annonce l'ouverture d'une enquête. C'est qu'un deuxième incendie de bus en un mois, quand même, ça interpelle. Surtout que le premier bus parti en fumée appartenait à la même série, la série Bluebus 5SE de la marque Bolloré. La RATP a donc pris la décision, par mesure de précaution, en liaison avec Île-de-France Mobilité, de retirer temporairement de l'exploitation les 149 bus électriques potentiellement concernés. La RATP qui demande au constructeur Bolloré donc qu'une expertise complète soit menée pour établir les causes de ces incidents. Alors forcément, 150 bus retirés de la circulation comme ça, ce n'est pas sans conséquence. Des bus de remplacement vont être redispatchés sur le réseau parisien, mais la RATP prévient d'ores et déjà qu'il y aura des perturbations. Une RATP qui se veut rassurante, tout de même dans un communiqué. Dans son communiqué, elle exploite, dit-elle, des bus électriques depuis 2016, sans incident majeur, du moins jusqu'à ces deux alertes. Donc, la flotte de l'entreprise compte en tout 4700 bus, dont 500 bus électriques de trois constructeurs différents.
Et coïncidence, un bus électrique a pris feu ce matin à Carcassonne. Il n'y avait pas de passagers à bord, il n'y a donc pas de victimes. Avant un inédit de Louis-Ferdinand Céline la semaine prochaine, c'est un texte de Georges Perec qui est publié aujourd'hui. L'auteur de La Disparition, le livre qui ne contenait aucun E, décrit des lieux de Paris, texte écrit sur le vif ou de mémoire. C'est un projet inachevé. Bonjour Ilana Mouyoussef.
Bonjour.
Alors la particularité, c'est qu'on peut s'offrir le volume, vous me l'avez apporté dans le bureau, massif volume, 600 pages, c'est édité par Le Seuil. On peut aussi lire le texte gratuitement sur le site de l'éditeur Le Seuil.
Oui, on le sait, Bruno, Perec adorait les protocoles expérimentaux. Ouais. Et il faut savoir que pour ce livre, il a fait appel à un mathématicien qui a conçu pour lui une grille de création avec 288 combinaisons, puisque l'idée était d'écrire deux textes par mois pendant 12 ans en évoquant 12 lieux parisiens. Mais ce n'est pas qu'un jeu formel. L'objectif était de mener un travail autobiographique combinant mémoire et écriture. C'est ce que nous explique Claude Burgelin qui signe la préface de Lieux.
Il dit des choses qu'il n'a dit nulle part ailleurs. Sur ses moments de découragement et de désarroi dans ces années 70, il a une grosse rupture sentimentale à ce moment-là et il la vit très douloureusement et ça colore sa vision du monde. Des moments de solitude. Ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'il ne cherche pas du tout à peindre de lui-même un portrait qui soit le moins du monde avantageux.
Alors je le disais, Ilana, le livre, sous forme interactive d'ailleurs, est disponible gratuitement sur le site des éditions du Seuil.
Du coup, est-ce que c'est rentable?
Eh bien, spontanément, je vous aurais répondu non. Ouais. Vous avez vu le livre, il est lourd, il est beau, il est bien édité. Ouais. Mais j'ai appelé tout de même Maurice Lander, l'éditeur qui dirige la librairie du 21e siècle, collection dans laquelle paraît le livre de Pérec.
Le fait que la librairie du 21e siècle et le Seuil mettent gracieusement à la disposition, il faut le rappeler, du monde entier, les lieux de Pérec ne peuvent qu'être rentables dans la durée et plus prosaïquement encore, avant la sortie des lieux aujourd'hui, on avait déjà réimprimé ce volume tant la demande était grande du côté des lectrices, des lecteurs et des libraires.
Eh bien voilà, il faut croire que les temps sont durs pour l'édition, mais qu'il y a un microclimat, Pérec.
Et ce livre s'appelle donc Lieux, on l'aura compris, et on peut donc le trouver sur le site du Seuil. Merci.
Et en librairie.
Et en librairie, évidemment. Merci Ilana Mor-Youssef. La météo dans un instant.
Aujourd'hui sur France Inter, le CNR et ses jours heureux sont dans Affaires Sensibles.
Fabrice Drouel.
Ici Londres, les Français parlent aux Français. Il est temps de cueillir les tomates.
De 1943 jusqu'à la Libération, le Conseil National de la Résistance lutte contre l'occupant et prépare en même temps le fameux modèle social français.
Affaires Sensibles.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h.
Podcasté et téléchargé sur l'application Radio France.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Jean-Pierre Rameau, c'est nuageux dans le nord-est.
Oui Bruno, une perturbation très atténuée gagne actuellement la Champagne-Ardenne et la Bourgogne. Elle continuera sa route en cours d'après-midi vers la Lorraine, puis avant la fin de l'après-midi vers l'Alsace et la Franche-Comté. À son passage, les pluies associées seront vraiment très faibles et sporadiques. En revanche, vous allez retrouver le soleil entre le Languedoc-Roussillon et les régions Rhône-Alpes et PACA, sans oublier l'île de Beauté. Et puis partout ailleurs, le ciel alternera belles éclaircies et cumulus de beau temps. Et puis comme hier, des averses orageuses vont se développer en cours d'après-midi entre le Limousin et l'Auvergne. Les températures maximales évolueront entre 13 et 25 degrés, avec 13 à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Biarritz, 20 à Nancy et Besançon, comptez 21 à Paris, Bordeaux et Dijon, 24 à Marseille. Et puis le mercure jouera avec la barre des 26 degrés du côté de Nîmes.
Jean-Pierre Rameau, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
C'est à Cergy qu'Emmanuel Macron a choisi d'effectuer son premier déplacement après sa réélection cette semaine. La ville a voté Mélenchon à 48% au premier tour, Macron à 76% au second, avec une abstention de 38%. À Cergy, le président voulait également saluer l'action de l'association Les Déterminés, qui multiplie les actions ces dernières années pour développer l'esprit d'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Les Déterminés ouvrent leurs portes à toutes les bonnes volontés pour des formations théorique et pratique, seul critère, être domicilié là où les formations ont lieu. Et cette association revendique la création de 300 entreprises, 500 personnes accompagnées au fil des années, dont 60% de femmes. Alors quels sont les atouts des quartiers populaires pour développer l'entrepreneuriat? Que leur manque-t-il? Le fondateur de l'association Les Déterminés est avec nous jusqu'à 13h45. Bonjour Moussa Camara.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et les auditeurs de France Inter peuvent vous interroger ou dialoguer avec vous au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Qu'avez-vous dit au président cette semaine et que vous a-t-il dit?
Bah déjà, moi je pense que, et je trouve que la présence du président à Cergy mercredi matin est un symbole, est un signal fort pour ce début du quinquennat. Les quartiers ont été un peu oubliés et surtout il y a beaucoup de colère. Et ce que le président a voulu montrer, c'est que ce mandat-là, il va être auprès des quartiers, auprès des acteurs qui font vivre ces territoires. Nous, voilà, ce qu'il nous a dit le président, c'est que il voulait vraiment que ce quinquennat soit la réussite de territoire, des jeunes talentueux qui portent des projets. Nous, on sera à leur côté pour pouvoir aussi rappeler que il y a du potentiel, il y a de l'énergie, il y a de la créativité.
Vous dites symbole fort, il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui lui reprochent de les avoir abandonnés quand même le premier quinquennat. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'électoralisme de dire coucou, bonjour avant les législatives comme ça?
On peut penser ce qu'on veut, mais moi je crois que c'est une première qu'un président de la République se déplace dans un quartier. Moi, je suis pas là pour défendre la politique d'Emmanuel Macron ou quoi que ce soit.
Pas mais une
je
pense première, que mais c'est pas tous les jours en tout cas.
C'est pas tout le temps, mais non, au début de son mandat, en tant que signal fort, je pense que c'est important. Après, au-delà de tout ça, moi, je pense que Il faut plus attendre. Je pense que les acteurs et les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires n'attendent plus.
Alors, du coup, vous lui avez dit quoi, vous qui vous battez, et on va détailler l'action de votre association, vous lui avez dit quoi, vous qui vous battez, pour qu'on développe les entreprises, l'esprit d'entreprise dans les quartiers? Vous lui avez dit, de quoi avez-vous besoin?
Moi, je pense que déjà, les entrepreneurs qui ont eu la chance de s'exprimer directement au président de la République, lui ont rappelé qu'ils avaient des projets, ils avaient des idées, mais les moyens qui étaient mis à leur disposition était presque impossible à trouver, quoi. Il y a des personnes qui entreprennent, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui créent de l'emploi, mais derrière, pour aller plus haut, pour aller se développer encore plus fort, il manque de moyens financiers. Et là, il n'y a pas les réponses. Et ils ont pu rappeler ça au président de la République en disant que nous, aujourd'hui, on est des créateurs d'entreprises, on est en capacité de créer de la valeur, créer des emplois, et en face, on n'a pas les réponses pour pouvoir se développer.
Et pourquoi les moyens n'arrivent pas? Parce que les quartiers sont encore stigmatisés. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous arrivez des quartiers, on a du mal à débloquer des budgets pour vous. Encore.
On n'y comprend rien. Il y a un manque d'information.
D'accord.
À un moment donné, il y a des dispositifs qui sont mis en place. Mais ces dispositifs, le temps d'arriver et toucher les personnes, finalement, il y a un trou dans la raquette.
Oui.
Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu rappeler au président de la République, si on veut réussir une politique volontariste auprès des quartiers, auprès des entrepreneurs, une politique autour du développement économique dans ces territoires-là, il faut travailler directement avec celles et ceux qui font ces quartiers. C'est parce que c'est eux qui auront les réponses, c'est eux une partie de la solution des réponses qu'il y a dans les quartiers. Il faut arrêter d'avoir trop d'intermédiaires, trop de couches, trop d'administratifs. Ça, si on veut faire en sorte que ça fonctionne pas, il faut continuer comme ça marche. Si on veut changer, à un moment donné, il faut faire des circuits courts, et je pense que le président a été à l'écoute de ça, et je pense qu'ils veulent totalement rechanger la manière et la méthode de comment ils doivent agir dans les quartiers. C'est le seul moyen pour que ça fonctionne. On a perdu 5 ans, il y a des choses qui ont été faites positivement, mais qui ont été mal informées, qui ont été mal mises en lumière, et il y a d'autres choses qui n'ont pas été faites. Si on veut qu'en 5 ans, on puisse changer totalement le visage des quartiers populaires, des territoires périurbains, de certains territoires ruraux, c'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain.
Circuit court, je retiens l'expression, ça marche pour l'écologie, ça marche donc peut-être aussi pour l'entrepreneuriat. Ouais. On détaille l'action de l'association. Je voulais votre regard quand même, Moussa Camara, sur le vote à Cergy. Mélenchon, 48% au premier tour, Macron, 76% au second, abstention, 38%. Comment vous interprétez ça?
Moi, je pense que ça a été beaucoup une colère. Ça a été peut-être que Mélenchon a réussi à s'adresser à une partie de la population qui s'était peut-être détournée des urnes, et ça a créé un élan. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont voté Mélenchon, parce que ça leur parlait. Et derrière, après, quand il y a eu le risque Front National, on s'est plus posé de questions à un moment donné. Les gens se sont dit, voilà, le président Emmanuel Macron, il faut tout faire pour barrer la route au Front National, parce que qu'on soit d'accord ou pas avec la politique qui a été menée pendant 5 ans, ça peut pas être pire que ce qui nous aurait été proposé avec l'extrême droite.
Est-ce que vous êtes à Strasbourg? Vous êtes implanté à Strasbourg ou pas?
On développe à Strasbourg, on est dans le Grand Est, à Nancy. On va faire Mulhouse aussi, on développe ça aussi à Mulhouse.
Bon, parce qu'on a un interlocuteur de Strasbourg avec nous. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Vous avez fondé une association qui s'appelle Café Contact de l'Emploi.
Café Contact de l'Emploi, qui a été sollicité, ça fait 15 ans, j'avais créé ça quand j'étais au chômage.
Oui.
Et l'outil essentiel, comme vient de dire l'interlocuteur présentement, c'est de faire venir des employeurs dans les quartiers, villes politiques de la ville, avec des vrais postes à pouvoir en bas des immeubles. Ça a été fait depuis 15 ans, encore il y a à Strasbourg, on va à Clichy-sous-Bois, on va à Lille, à Marseille. Ça a été repris par Face Alsace et donc des Coltons de Job à Nantes. Et l'intérêt, c'est les solutions du terrain. On avait plébiscité avec Jean-Louis Borloo et donc d'autres partenaires qui ont des solutions. C'est que les solutions viennent du terrain, et ça a été nos actions sont très proches de l'entreprise, puisque les emplois viennent en bas de l'immeuble, dans un centre socio-culturel ou un café. C'est l'humain plutôt que l'algorithme, le potentiel plutôt que le fait. Mais ça veut dire que les politiques gouvernants doivent effectivement s'inspirer ou utiliser les outils qui fonctionnent. Et on est circuit court de l'emploi, café, contact de l'emploi, circuit court de l'emploi.
Les solutions de terrain, circuit court, que les entrepreneurs viennent vous valider, Moussa Camara?
Totalement, c'est le travail de proximité. C'est la clé de la réussite. Si il n'y a pas de proximité, de considération auprès des acteurs et des populations qu'on vise dans nos politiques publiques, ça ne marche pas.
Alors les déterminés, ça marche comment?
Aujourd'hui, les déterminés, ça fonctionne très bien. Vous avez rappelé quelques chiffres. J'aimerais aussi rappeler les chiffres qui ont doublé cette année. Aujourd'hui, on a plus de 800 personnes qu'on a accompagnées. On a 4500 personnes qu'on a sensibilisées. C'est un programme qui est gratuit. Nous, on va dans les territoires pour apporter une réponse économique. Il y a la partie entrepreneuriale inclusive qu'on parle beaucoup, mais il y a aussi la partie employabilité. L'intervenant qui en parlait, c'est aussi fort parce que nous, aujourd'hui, moi, j'ai l'intime conviction que si on arrive à amorcer une vraie politique économique dans les territoires les plus éloignés, bah on inverse le champ. Donc nous, Déterminer, c'est un programme qui est gratuit. On va sourcer dans les territoires.
Allez-y, vraiment présentez-nous là pour ceux qui connaissent pas du tout.
Bah, c'est un programme qui vise à accompagner et faire émerger des entrepreneurs. Vous avez une idée, un projet, vous savez pas par où commencer, il vous manque des moyens, etc. Vous venez chez nous et nous, on vous propose un programme qui est totalement gratuit pendant 6 mois. On vous met des intervenants de qualité, on vous forme, on vous accompagne, on vous met un réseau à disposition, on vous met des mentors à disposition et derrière, vous créez vos boîtes. Et ceux qui créent leurs boîtes, 80% d'entre eux sont encore en vie 3 ans après. Et c'est important parce que quand vous voulez entreprendre, vous êtes seul, vous n'avez pas les réseaux, donc c'est compliqué de pouvoir se retourner. Et du coup, ce qui est intéressant de se faire accompagner, c'est que toutes les difficultés que vous allez rencontrer en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile quand vous avez des conseils, quand vous avez des mentors, quand vous êtes encadré.
Qui est-ce qui vous finance ?
Aujourd'hui, nous, on a plusieurs partenaires privés et publics qui soutiennent le projet, notamment BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, qui avec lesquels on travaille tout au long de l'année pour pouvoir faire émerger les entrepreneurs dans les territoires. On a des groupes comme BNP Paribas, Mazars, SAP, la NCT, qui est le bras armé du ministère de la Cohésion des Territoires. Et on a tout un tas d'entreprises que je peux pas tous citer, mais qui sont à nos côtés. Et là, je viens de revenir d'une signature d'un partenariat avec l'URSSAF. C'est important aussi d'impliquer aussi ces
acteurs-là institutionnels,
parce que tout ça ferait partie du parcours de l'entrepreneur. Et il sera confronté à ces structures-là. Donc, le fait de mettre des structures privées, des structures publiques, et aussi des entreprises et des entrepreneurs philanthropes qui participent à l'action des déterminés, ça permet d'avoir un package complet pour les entrepreneurs qu'on accompagne.
Les entreprises créées, c'est quoi comme entreprise ? Quel secteur ? Quel type d'activité ?
Aujourd'hui, on a tout type d'entreprises. On a des entreprises dans tout ce qui est numérique, digital, dans l'alimentation, dans le prêt-à-porter, dans tout ce qui est formation, éducation aussi. On a des projets dans la livraison, dans la mobilité douce, dans tout ce qui est agroalimentaire aussi notamment. Il y a vraiment une diversité de projets et de profils de secteurs d'activité qui sont représentés.
60% de femmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes femmes des quartiers osent moins se lancer ou on leur donne moins de moyens. S'il n'y a pas une aide, il n'y aura pas d'entrepreneuses qui émergeront ?
Moi, je pense que la difficulté, elle est partout ailleurs. Quand on regarde le taux de création d'entreprises chez les femmes, en France, on est à 23%. Chez nous, on est à 60%. C'est-à-dire, nous, on a fait un choix de mettre en avant beaucoup plus de femmes qui entreprennent. En plus, c'est la réalité. Parce qu'elles entreprennent, elles entreprennent pas des métiers... c'est pas de l'entrepreneuriat précaire qu'on porte, là. Ouais. Là, je peux vous donner l'exemple de Yasmine, qui a créé une boîte dans la livraison. En 2 ans, elle a craint de recruter 100 chauffeurs-livreurs. Elle a développé son activité à travers toute la France. C'est des entreprises ambitieuses, innovantes, créatives, qui ont aussi des étapes à se développer. Et pour ça, pour nous, c'est hyper important de le mettre en avant. Et aujourd'hui, chez nous, c'est pour ça qu'il y a autant de femmes que d'hommes, parce que elles sont volontaristes, elles entreprennent, elles développent dans le numérique, elles créent des projets incroyables. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et on est très heureux de le faire.
Vous travaillez en zone rurale. Est-ce que les questions, les problématiques, pour prendre un mot un peu tordu, les questions posées sont les mêmes, les problèmes rencontrés sont les mêmes, ou c'est des situations très différentes ?
Elles sont à peu près les mêmes parce que c'est des territoires isolés où il n'y a pas forcément des opportunités. Mais après, il y a aussi une autre problématique qui parfois peut se retrouver dans certains quartiers, c'est la mobilité. C'est-à-dire aujourd'hui, pour sortir de certains villages, d'aller chercher les gens qui n'ont pas le permis, où il y a très peu de transports qui desservent ces villages-là, c'est très compliqué. Et ça se passe aussi pareil dans les quartiers nord de Marseille. Pour arriver au centre-ville, vous mettez presque 2 heures. C'est plus facile d'aller à Bordeaux, de Marseille à Bordeaux, que de venir d'un quartier nord au centre-ville. Donc il y a toute cette problématique de mobilité qu'il faut décloisonner. Mais en réalité, le potentiel est là, l'énergie est là, l'envie est là. Mais derrière, il faut qu'on mette les moyens pour décloisonner tout ça.
Vous avez cette phrase que j'ai repérée dans une interview en préparant cet entretien. Il faut redonner le sens de la noblesse, de la méritocratie.
Ouais, moi, parce qu'on parle beaucoup de méritocratie. En gros, ceux qui réussissent, c'est qu'ils méritent. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui souhaiteraient réussir, mais ils sont pas dans les conditions. Aujourd'hui, dans les bonnes conditions pour pouvoir réussir. Ouais. Donc moi, je crois pas qui veut, si on, quand on veut, on peut. Ça, ça marche individuellement. Mais collectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est pour ça, quand je dis, ouais, on m'a posé la question dans, lors d'une interview, ouais, la méritocratie, je dis, ouais, c'est bien de parler de méritocratie, mais en réalité, il faut redonner du sens à ce mot-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus de sens. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mérite? Le mérite, ça veut dire, en gros, que certains ont bien travaillé, donc ils doivent réussir. Et ceux qui n'ont pas eu les mêmes opportunités de bien travailler, ouais, ils doivent pas réussir aussi. Donc, pour moi, c'est pour ça que je remets un peu ce, en question ce, ce concept de méritocratie. Mais aujourd'hui, voilà, moi, pour moi, je crois en une France qui va permettre à tout un chacun, peu importe ses difficultés et son parcours de vie, de pouvoir à un moment donné s'en sortir et de réussir un projet.
Moussa Camara, il nous reste 30 secondes. Vous avez suivi une formation en mentorat pour des jeunes leaders aux États-Unis. Mmh. Vous y avez appris quoi? Est-ce qu'il y a, des initiatives nouvelles, des façons de faire différentes qui vous ont inspiré?
Bah moi, ça m'a énormément changé d'état d'esprit parce que j'étais pas dans le même état d'esprit avant d'aller faire un voyage aux États-Unis, ouais, pendant 3 mois. J'ai compris certaines choses. J'étais toute la journée avec des acteurs économiques qui faisaient du cash et, ouais, et le soir ils allaient faire des actions philanthropiques. Et ce que j'ai compris là-bas, c'était grâce à la force économique, ils arrivaient à avoir un impact beaucoup plus important social auprès des populations les plus fragilisées. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis dit en réalité, l'économie doit être au service de l'humain. Et c'est comme ça que j'ai voulu développer les déterminés, parce que je crois à, si on arrive à inverser une vraie dynamique et tendance économique auprès, ouais, des populations les plus fragilisées, on va aussi tirer une réussite sociale.
Merci Moussa Camara d'être venu dans les studios de France.
Merci
Inter. L'association s'appelle donc Les Déterminés. Il est 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le 1er mai dans le vif aujourd'hui.
Une entrepreneuse déterminée, Louise Michel, le 1er mai 1890.
À tout à l'heure, c'est dans 10 minutes. Les cuisines fantômes, les Dark Kitchen, dans le feuilleton, dernier épisode avec Sarah Guibaudeau. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Aline Afanoukoé.
Bonjour Bruno.
Alors vous êtes allé voir la patronne, Laurence Bloch, directrice de France Inter, qui passera le relais cet été à Adèle Vendrette après 8 ans à la tête de la radio. Laurence, à votre micro aujourd'hui.
Et j'aurais dû vous dire bavon javour, c'est de l'argot javanais et ça va vous mettre immédiatement sur la piste du titre du jour. Laurence Bloch a un lien intime avec cette chanson qui compte beaucoup à ses yeux, c'est la javanaise de Serge Gainsbourg.
Alors, je vais vous dire, c'est une chanson d'abord que j'aime fredonner tout le temps. Et c'est une chanson qui me vient très régulièrement en tête, parce que c'est un peu comme une berceuse. Je trouve que c'est quelque chose de très tendre, de très mélancolique, de très gracieux. Et puis ça a une saveur particulière pour moi, parce que lorsque j'étais jeune et que je vivais chez mes parents adoraient danser. Et donc tous les samedis, ils invitaient leurs copains, leurs amis qui étaient en couple comme eux. Et je me souviens du salon qui était transformé comme une mini salle de bal, où ces couples dansaient, et il y avait toujours, à chaque fois, la javanaise. C'est marrant, vous voyez, quand je vous en parle, je revois les chorales des danseuses de Pina Bausch. C'est-à-dire que voyant mes parents danser sur cette valse, c'est resté gravé dans ma mémoire, ça m'a donné le goût de la danse, ça m'a donné le goût de Gainsbourg. Oui. C'est à la fois tous ces souvenirs d'ado. J'ai grandi avec Gainsbourg, c'est-à-dire que j'ai connu le Gainsbourg de la javanaise, et puis j'ai connu le Gainsbourg de la transgression.
Donc le Gainsbourg.
De Gainsbourg, Lemon Incest, l'histoire de Melody Nelson. Mais il m'est toujours resté, voilà, de façon gravée dans mon esprit, cette balade dans des amours qui ne réussissent pas et qui pourtant auraient pu réussir. Dans ce style extraordinaire, parce que c'est d'une élégance magnifique.
La mélodie est extrêmement puissante aussi.
Absolument.
Comme vous le dites, elle a quelque chose de doux et à la fois de nostalgique.
D'envoûtant.
À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
La javanaise, écrite et composée par Gainsbourg, originellement originellement pour Juliette Gréco en 63.
Gainsbourg y évoque la javanaise en tant que danse, ce qui a tout de suite plu à Laurence Bloch. Cette chanson déclenche chez elle une envie irrépressible de chanter, de danser et de transmettre aussi.
Mon frère et ma sœur ont cette chanson en partage. Parce qu'il se trouve qu'on organise encore aujourd'hui des... Alors, j'appelle ça des booms. Donc, évidemment, mon neveu et ma nièce trouvent ça totalement ridicule. Des soirées, c'est pas beaucoup mieux. Mais enfin, des moments...
Des bamboches
où, pas complètement, non. C'est des moments... Des bamboches, je dirais pas ça. Mais c'est des moments où, en tout cas, on danse. Et il y a, évidemment, invariablement la javanaise.
Vous auriez pu être chanteuse, Laurence ?
Non, danseuse. Je vais en venir à ce qui m'a le plus ébloui, c'est vraiment les femmes de Pinabauche qui racontent une histoire, qui sont si gracieuses et si cruelles, et qui disent quelque chose avec leur corps. Moi, j'aime beaucoup la radio, parce qu'il y a quelque chose de très intime, de très sensuel, de très... presque un corps à corps. Mais j'aime aussi beaucoup le langage du corps et le langage des danseurs. D'ailleurs, qui dit que je ne deviendrai pas danseuse dans mes dernières années ?
La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Pas sûr qu'elle chante très juste en revanche. La javanaise de Serge Gainsbourg, choisie par Laurence Bloch.
Laurence Bloch qui ne s'arrête jamais et donc peut-être bientôt sur scène, danseuse.
En tout cas, à la tête de cette radio jusqu'à cet été, 13h50. Dernier épisode de notre feuilleton dans les cuisines fantômes de Lyon, les Dark Kitchen, restaurant virtuel en quelque sorte, où se préparent les plats à emporter à domicile. Le phénomène s'est développé depuis la crise sanitaire et les confinements. Au micro de Sarah Guibaudot, aujourd'hui, parole à deux entrepreneurs qui viennent de se lancer. Leur enseigne s'appelle Party Kitchen.
Allez-y, rentrez.
Est-ce que je peux venir vous embêter ?
Bien sûr. Moi, je suis en cuisine et Alexis s'occupe du reste, donc...
Moi, c'est Léa, je suis directrice générale de chez Party Kitchen.
Je m'appelle Béas Alexis, je suis le président de Party Kitchen.
Comment ça se passe une journée dans une dark kitchen ? Alors, on commence à 10h le matin, donc on fait pas mal de mise en place. Et puis le service commence à 11h30, donc on commence assez tôt pour pouvoir livrer les bureaux. Le service après s'arrête vers 14h, on travaille en coupure. Et le soir, on recommence vers 18h pour finir un service à 22h. Allez, c'est parti.
Donc là, c'est du poulet grillé.
En fait, il est replongé 1 minute 30 dans l'huile directement, juste pour le dorer, qu'il devienne croustillant. Hop. C'est sucré, salé et pimenté. Ce que je fais, c'est que je vais beaucoup regarder des vidéos, je vais essayer de traduire, je vais sur Google Translate, je tape le nom en anglais, puis je vais le faire traduire en coréen, par exemple, pour trouver l'authentique recette du poulet à la coréenne.
Vous avez une formation de cuisinière à l'origine ?
Non, absolument pas. On va dire que j'ai toujours baigné dedans et pour moi, c'est une passion.
Je viens du monde du digital et du marketing. On est passionné par la food et finalement, la restauration virtuelle nous a permis d'allier nos compétences et notre passion. Le Covid a accéléré les choses et ça nous a permis donc de nous lancer. On s'est lancé en septembre 2020.
Et cette passion aujourd'hui, ça ne passe plus par le restaurant physique.
Pour moi, ça se complète, c'est différent. Pour moi, j'ai envie de manger à la maison le dimanche soir, dans mon canapé, parce que j'ai la flemme de sortir. Et par contre, le samedi soir et le vendredi soir, j'ai envie d'aller manger au restaurant, me faire plaisir avec mes amis, en convivialité. C'est pas du tout la même expérience. Actuellement, je suis seule en cuisine les midis. Je suis rejointe par une étudiante tous les soirs de la semaine qui vient me donner un coup de main puisque les midis sont encore timides du fait qu'on n'est ouvert que depuis un mois et demi.
Aujourd'hui, on est sur un modèle d'entreprise qui se rapproche presque plus d'une start-up que d'un restaurant traditionnel. Par exemple, on a opté pour la semaine de 4 jours. On est sur des rémunérations qui sont dans les standards, hein, au SMIC, et ça colle plutôt bien finalement avec ce que les étudiants recherchent. Ça leur permet de travailler, de gagner leur vie, tout en ayant 3 jours de repos ou plus sur des petits contrats, de façon à ce qu'ils se consacrent à leurs études.
Aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas une présence physique, on compense cette présence via les réseaux sociaux. On est une société multimarque.
Alors, plusieurs marques, ça veut dire qu'il y a plusieurs styles de cuisine. Léa, vous qui faites les recettes, vous faites aussi bien des burgers que de la cuisine coréenne.
Tout à fait. Alors, on fait du poulet frit à la coréenne. On a des burgers premium avec de la viande label rouge, maturée, du cheddar en clé 24 et 18 mois, où on fait de la salade pré-composée et à composer soi-même.
Et donc, l'objectif, c'est d'être présent à tous les moments de la journée, de la semaine, et vraiment s'adresser à un maximum de clients possibles. Et on l'espère que nos marques seront aussi connues que McDo, Burger King ou KFC, pour ne pas les citer.
Pour le moment, c'est un petit peu la jungle, ça foisonne de marques.
On peut dire que c'est en effet un petit peu la jungle. Chacun essaye d'imposer sa notoriété, son identité, mais l'avantage, c'est que c'est le client final qui décidera des marques qui vont perdurer. Et puis c'est tellement nouveau, on ne parlait pas de restaurant virtuel il y a 4 ans.
Et voilà pour ce dernier épisode du feuilleton de Sarah Guibaudeau. Réalisation cette semaine, Lucie Lemarchand et Théo Raison. Une semaine dans leur vie. Les feuilletons sont à réécouter sur le site de France Inter et les bonnes plateformes de podcast.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le 1er mai dans le vif de l'histoire aujourd'hui. Cette année, il va tomber un dimanche. Ça ne ressemblera pas beaucoup à celui de 2001, où il y avait 1 million de manifestants contre Le Pen. Ça, c'est pour l'actualité immédiate ou un peu plus ancienne. Maintenant, si on passe à l'archéologie du 1er mai, en ses origines, 1890, ses défenseurs, par exemple Louise Michel, n'attendaient rien du suffrage universel ?
Ben, les anarchistes étaient nombreux à l'époque et Louise Michel, la communarde, revenue depuis 10 ans de sa déportation en Nouvelle-Calédonie, quand elle apercevait une urne, elle voyait rouge, elle sortait avec son drapeau noir. En même temps, elle ne croit pas que la grève générale puisse être décrétée un jour fixe, le 1er mai par exemple. Si la houle se lève, il faut cependant que, je parle lyrique un peu hein, comme elle, la voile de la révolution soit tendue pour en tirer le meilleur parti, camarades.
Alors, le gouvernement républicain modéré observe les consignes de manifestation et de grève qui surgissent un peu partout en ce 1er mai 1890. Et le ministre de l'Intérieur mobilise les forces de l'ordre. À l'époque, c'est d'abord la troupe.
Claude Retta, dans le livre qu'elle consacre à Louise Michel cette année-là, raconte que la grande citoyenne est appelée alors pour une série de réunions d'avant 1er mai par les groupes anarchistes de la région lyonnaise, par exemple. Elle est habituée, c'est une abeille infatigable, à vrombir d'une ville à l'autre. Et cette fois, elle est accompagnée d'Alexandre Thévenin, qui dans le compartiment lui fait un cours sur les possibilités de mener une activité illégale dans le cadre des lois. Alors tous deux parlent le 27 avril 1890 à Lyon, 1500 auditeurs, le lendemain à Firminy, Saint-Chamond, 500 militants, le 29 ils sont de nouveau face à 1500 personnes, dont des femmes et des enfants, à Vienne, la cité drapière de l'Isère. Le député maire, républicain avancé, a prêté le théâtre municipal. Et Thévenin, qui est un orateur cogneur, va le plus loin dans l'appel à la violence pour le surlendemain. Quant à Louise Michel, comme à l'accoutumée, elle déroule images et métaphores. Le prolétaire est comme l'animal, il revient à sa source d'égalité. Ensuite, coule la source et bientôt roule la houle.
Bon, en fait, ce 1er mai 1890 est beaucoup plus calme que ne le redoutait le gouvernement. Néanmoins, il ne l'est pas parfaitement, ce qui va permettre au dit gouvernement de monter en épingle les incidents qui vont en effet se produire à Vienne.
Alors après cette réunion à Vienne, Louise Michel et Thévenin ont repris le train, ils se sont fait arrêter à la descente pour provocation à la violence, et le relais est pris sur place par Pierre Martin, dit le bossu, un ouvrier qui sait entraîner ses camarades par une parole de feu. Alors le 1er mai au matin, au théâtre toujours, il tient réunion. Le député maire, qui a encore prêté sa salle, est interpellé. « Est-ce que t'es seulement un salarié pour avoir le droit de parler ?»« Non, t'es seulement un élu subventionné pour trahir nos intérêts à la Chambre. » Au bout de quelques minutes, il faut exfiltrer le maire. Et il faut moins de temps encore au malheureux commissaire de police pour se retrouver à terre, frappé à coups de poing. On se demande si c'est des coups de poing américains. Puis, les participants sortent dans la ville, précédés d'un drapeau rouge et d'un noir, au chant de la Carmagnole, au cri de « Prenez, c'est à vous !» Et en effet, les manifestants se saisissent à l'usine Brocard d'une pièce de drap qui va être traînée dans la boue, coule la source, roule la houle.
Et la troupe rétablit l'ordre, puis un procès est organisé à Grenoble dès le mois d'août.
10 ouvriers, 8 ouvrières sont condamnés, Thévenin et Martin. Martin qui dit aux jurés, majoritairement des cultivateurs, les fabricants de Vienne oblige les ouvrières à travailler 12 heures sans pause pour le déjeuner. Vous laissez reposer vos bêtes. Alors, donc deux condamnés, mais...
Pas Louise Michel.
Ben non, pas Louise Michel, elle est trop dangereuse pour être jugée. Dès le mois de mai, on lui a annoncé qu'elle allait être élargie, à la différence de ses camarades, elle est furieuse, comment ça, je vais rester en prison, comparaître comme les autres. Comme on le lui refuse encore, elle va saccager sa cellule. Et ici se produit un événement très singulier. Les autorités médicales de Vienne croient se faire bien voir en diagnostiquant que l'infatigable discoureuse est devenue hallucinée. Il se prépare à l'interner. Louise Michel a très peur, mais le ministre de l'Intérieur a encore davantage peur qu'elle. Il s'appelle Constance, retenons son nom, parce que il a refusé que la République se transforme l'opposition en maladie mentale.
Et l'épisode laissera Louise Michel furieuse.
Ben oui, alors elle va continuer à convertir, d'abord depuis Londres, parce qu'elle quitte la France un moment. Claude Retta rêve de retrouver un roman qui s'est perdu, La Grande Citoyenne, y racontait la plus belle conversion qui puisse se produire, celle d'un juge qui, ne supportant plus la robe, passerait à la Révolution. Mais enfin, c'est pas possible, on le prendrait pour un aliéné.
Et le récit de ce 1er mai, donc sous la plume de Claude Retta, l'anarchie au prétoire, Vienne, le 1er mai 1890, une insurrection et ses juges. Merci Jean Lebrun. La Terre au carré, dans un instant. Avant ça, il y aura le flash.